connaître sa bonté et son pardon. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix. Par Jésus, nous avons la paix. Bonjour à tous. Bienvenue à chacun. Bienvenue aux enfants. Bienvenue aux jeunes. Bienvenue aux jeunes adultes. Aux adultes. Aux plus âgés. À nos aînés. Bienvenue à vous qui êtes ici et bienvenue à vous qui nous suivez depuis chez vous. Connus ou inconnus, vous êtes les bienvenus. Par la musique que vous avez entendue avant que je prenne la parole et par le PowerPoint que peut-être vous avez vu, j'espère, défiler pendant que vous preniez place, et ma salutation, peut-être avez-vous deviné le thème du culte. Oui.
La guerre et la paix.
Là, ouais. On va surtout parler de la paix. Bravo, tu as bien regardé. Les enfants, vous allez parler du veau d'or. Donc, ce n'est pas exactement la guerre ou la paix, mais c'est aussi une situation où il n'y a pas la paix. Et qui provoque beaucoup de troubles et de problèmes. Et vous allez voir comment Dieu et Moïse vont remettre de l'ordre là-dedans, remettre de la paix. J'aimerais vous demander, quand vous entendez le mot paix, vous pensez à quoi ? Sylvain va, s'il vous plaît, vous répondez par un mot. Et puis, Sylvain, il va écrire vos réponses et puis vous les verrez là. Ilan.
La bienveillance.
La bienveillance. Oui.
L'harmonie.
L'harmonie. Attendez, on va attendre que ça apparaisse, l'harmonie. Et puis.
Le pardon.
Le pardon.
Le calme.
Le calme. La tranquillité. Tranquillité.
L'amour.
L'amour.
La joie quand on a la paix.
Ouais, c'est juste. On a la joie. Oui, Samuel. Le pardon. Il y a quelqu'un qui a déjà dit le pardon. Et puis, le contraire de la paix. Qu'est-ce que le contraire de la paix ? L'angoisse, la guerre. Et puis, les enfants. Vas-y, les enfants. La bagarre.
La peur.
La peur. Oui. La tristesse, la haine. Le conflit. Mon Dieu, ça va vite, hein, plus vite que pour la paix.
Le stress.
Le stress.
Incompréhension.
Alors, on va attendre que Sylvain ait le temps.
La haine.
La haine.
La colère.
La colère.
Sylvain, il manque
un E. À stress, il manque un E.
Il est tellement stressé.
Vous parlez à stress, à stress. Le 10. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Non, c'est bon. Il y avait une faute.
Ah, pardon. Et comment on est quand on nous dit t'as fait faux ? C'est aussi un sujet où on n'est pas en paix. Hein. La culpabilité.
L'insécurité.
Nerveux. Voilà.
L'insécurité.
L'insécurité. Voilà. Waouh. Il y a plus de mots avec l'absence de paix. Donc le sujet est bien choisi. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant toi ce matin avec tout ce que nous sommes, tout ce qui est en nous, tout ce que nous avons vécu cette semaine et ce matin avant d'arriver. Nous te l'apportons parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, viens nous rencontrer et que nous ayons des oreilles et un cœur pour entendre, recevoir ce que tu aimerais nous dire pour nous faire du bien. Nous pensons aussi à ceux de nos frères et sœurs ici, de notre famille ou pas, qui sont dans le deuil, qui sont malades, qui passent par des temps difficiles, ceux qui par le monde aussi vivent des choses extrêmement difficiles. Seigneur, tu es notre seul secours. Nous savons que tu n'enlèves pas les problèmes, mais que tu nous accompagnes pour les traverser. Et nous t'en disons merci. Merci de ta bénédiction sur nous ce matin. Amen. Place à la louange.
Thank you.
Leurs idées. Merci parce qu'ils nous énervent parfois. Merci parce qu'ils sont là. Je te demande de les bénir ce matin, chacun dans leur groupe, de bénir leur moniteur et qu'ils soient heureux d'être ensemble, heureux d'entendre quelque chose qui vient de toi, heureux de savoir qu'ils sont des trésors pour toi. Amen.
Voilà, merci à tous, merci aux musiciens. Je trouve que la flûte, qu'on n'entend pas très souvent, mais exprime vraiment aussi le thème du culte. Le son de la flûte, c'est vraiment un son de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. C'est Matthieu 5, 9. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin. Est-ce que vous vous sentez en paix? Je pense aussi bien à ce qui est notre vécu personnel, intérieur, que dans le monde autour de nous. Et c'est vrai que ce thème s'est un peu imposé à moi il y a un peu plus d'un mois, quand Philippe Anchaud m'a demandé de prendre ce matin à la place de quelqu'un qui ne pouvait pas. Peut-être que c'est cette espèce d'inquiétude diffuse qu'on sent parfois autour de nous, qu'on sent souvent aujourd'hui, qui m'amène à ce thème. Et puis je vous fais un petit aveu. Quand je dois prêcher, j'ai quand même toujours un petit stress dans les jours qui précèdent, qui ressemble beaucoup au stress que j'éprouvais quand j'étais encore en activité comme prof. Chaque fois avant la rentrée, les 2-3 jours avant la rentrée, voilà. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont aussi eu cette même expérience. On a beau avoir l'habitude, ce stress y revient à chaque fois. Et puis c'est pas comme certains ou certaines qui peuvent me dire, là dans cette église, 2 jours avant, j'ai fini ma prédication. Moi j'y arrive pas, voilà. Alors tout à l'heure, on a évoqué des mots, hein. C'est curieux parce que, c'est ce que Denise me disait, c'est quand même plus facile de trouver des contraires que des synonymes. Puis j'ai laissé une troisième colonne, mais ça viendra plus tard. Alors j'évoquais le stress. Bon, comment est-ce que je suis affecté? Comment est-ce que je reste en paix quand, par exemple, je reçois une mauvaise nouvelle? Ça peut être, par exemple, on va perdre son emploi, ou bien un problème de santé grave. Moi, j'ai une belle-sœur qui vit depuis un peu plus d'une année avec l'épée de Damoclès d'un cancer. Mais c'est vrai que mon frère et ma belle-sœur témoignent de la paix qu'ils trouvent quand même dans la foi, malgré cette l'inquiétude qui est là quand même. Ou parfois quand je suis en conflit, le mot il est sorti tout à l'heure, ou quand quelque chose ou quelqu'un m'a énervé. Ça vous arrive peut-être. Ou bien quand j'ai fait quelque chose de mal, ou dit quelque chose qui a blessé quelqu'un. Peut-être que j'éteins mon portable, comme j'ai oublié de le faire. Voilà, c'est mieux. Alors, ce verset qui nous appelle à être des artisans de paix, c'est le 7e de cette séquence qu'on appelle les béatitudes. C'est le portique d'ouverture du premier cycle d'enseignement de Jésus dans l'évangile de Matthieu, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et ces béatitudes, elles nous invitent à un renversement complet des valeurs qui sont vraiment à l'opposé de ce qui est prôné dans notre société de consommation actuelle, avec une course à toujours plus, beaucoup de recherche de gloriole, beaucoup de concurrence, recherche de réussite. L'invitation de Jésus dans les béatitudes va à l'envers de tout ça. Heureux qui se savent pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux. Dans son enseignement, Jésus parle en araméen, qui est une langue qui ressemble à l'hébreu, qui est de la même famille. À cette époque, les Romains imposaient une sorte de paix, mais c'était une paix imposée par l'armée sur tout l'Empire. Et quand Jésus parle en araméen, il utilise le terme de shalom, que tout le monde a entendu une fois ou l'autre. C'est aussi la salutation qu'utilisent les Juifs. Et c'est un mot qui a un sens peut-être beaucoup plus large que juste notre idée de la paix. Juste quelques notes d'un commentaire biblique d'Antoine Nuis. Le mot « paix » peut avoir plusieurs significations. Il ne faut pas confondre la Pax Romana et le shalom biblique. La première, donc la Pax Romana, c'est une absence de conflit reposant sur la domination d'une autorité militaire, économique, juridique et religieuse, qui intègre ce qui peut être intégré et écrase tout ce qui ne peut pas l'être. Le shalom est associé à la droiture et à la justice. C'est une paix qui est à la fois extérieure et intérieure, qui induit des relations justes et une pacification personnelle. Oui, ce shalom, c'est une idée très globale de vie où chacun peut jouir des fruits de son travail de manière juste. Et ce shalom, c'est vraiment quelque chose qui, dans la Bible, est présent tout au long, au cœur de l'attente messianique, de cette attente de ce que Dieu va faire finalement. Mais la paix, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui se travaille. C'est pour ça que Jésus parle des artisans de paix. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est à recevoir. Parce qu'on ne peut pas juste le bâtir par notre propre... magiquement par notre volonté. Alors j'aimerais l'aborder ce matin sous différents aspects. Passer à la suite. La paix intérieure qui va avec la paix avec Dieu. Ce qui se passe dans nos relations personnelles, et puis aussi dans la société et dans le monde, et puis finalement dans l'Église, où est-ce qu'on en est? Alors j'évoquerai quelques textes courts. C'est pas de mon habitude de prendre des versets bibliques isolés, mais je crois qu'ils ont tous leur sens et leur résonance avec celui-ci dans leur contexte. Alors je dis, la paix intérieure, c'est sûr, c'est en lien avec la paix avec Dieu. Et l'autre jour, Jacques Laudinier nous racontait une anecdote que je trouve intéressante. Il y a un livre qui a été publié il y a longtemps, puis qui a été diffusé par les groupes missionnaires à un nombre impressionnant d'exemplaires, qui s'appelle « La paix avec Dieu ». Bon, c'est peut-être pas le genre de livre que je lis, mais il reste de ces livres, et il les mettait dans les boîtes à livres qu'on trouve. Et il a constaté, en retournant dans la boîte à livres très peu après, que ces livres avaient tous disparu. Je pense que ça montre en fait que ce titre accroche les gens, parce qu'on a un vrai besoin, qu'on soit chrétien ou non, ça réveille quelque chose sur ce besoin profond d'être en paix avec Dieu et avec soi-même. Mais pour être des artisans de paix, c'est vrai qu'il faut d'abord rechercher la paix à la source, comme pour aimer, il faut recevoir l'amour à la source. Alors, j'aimerais citer quand même deux voleurs de paix qu'il y a dans nos existences. Puis je pense qu'ils ont été aussi mentionnés tout à l'heure dans les mots qui ont été choisis. Alors, le premier, c'est l'inquiétude. En réponse à ça, j'aimerais vous relire, que nous relisions, ce que Jésus dit à ses disciples, juste avant le moment le plus tragique où il va être emmené pour être exécuté. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas à la manière du monde, ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Il y a quelque chose de là de très profond, une paix qui n'est pas dépendante des circonstances, mais qui est dépendante de quelque chose de très profond qu'on est appelé à recevoir. Pour citer un autre verset qui est sûrement très connu aussi, c'est un verset que Paul écrit depuis une prison. Depuis sa prison, il écrit aux Philippiens, c'est un peu l'Église qui est sa chérie quelque part, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. » C'est que finalement, c'est la seule arme contre l'inquiétude qui vient nous voler la paix, c'est la prière. Ça peut aussi être la prière des autres, hein, parce que des fois, on n'arrive plus à prier soi-même, mais on peut demander l'aide d'autrui. Je pense aussi à ce verset d'un très vieux chant, « J'ai soif de ta présence ». Vous savez le verset qui dit, la troisième strophe, « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais ». On ne dit pas ça pour valoriser la souffrance, mais simplement pour dire que la paix que Jésus nous offre, c'est une paix qui vient au-delà des circonstances. C'est que la vraie paix, c'est celle qui ne découle pas des circonstances. Alors, deuxième voleuse de paix, qui est aussi été mentionnée tout à l'heure dans notre échange, c'est notre culpabilité. Et un seul remède, le pardon, reçu et donné. Et c'est quelque chose qui est déjà présent dans l'Ancien Testament, dans ce chapitre 53 d'Ésaïe, qui est une magnifique préfiguration de la vie et de la mort de Jésus-Christ pour nous. Il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. L'ascension, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Alors, voilà un petit peu la base de ce qui nous permet d'avoir une paix intérieure. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit dans les relations personnelles ? Comme je disais, il y a la famille, il y a le travail, il y a l'église. Et là aussi, il y a un mot qui est sorti. Qu'est-ce qui nous vole le plus souvent la paix ? Les conflits. C'est souvent les conflits qui sont des voleurs de paix. Les conflits qui sont les voleurs de paix. Et c'est souvent dans la famille et dans l'Église que les conflits sont les plus douloureux. Sans doute parce que c'est là que les relations sont les plus proches, les plus intimes, et puis que c'est que quand ça ne marche pas, ça nous fait le plus mal. C'est là qu'on a les plus grandes attentes. Mais est-ce que la paix, c'est l'absence de conflit ? Qu'en pensez-vous ? Je vois des gens qui hochent la tête, hein ? Non. Moi, j'aime pas les conflits. Et j'ai plutôt tendance à essayer de les éviter. Puis parfois, je suis dans une situation où c'est moi qui les provoque, malgré moi, par mes réactions, par des réactions qui font ressortir un certain nombre de choses. En tout cas, un constat qu'on peut, je pense, tous faire, c'est que les conflits surgissent presque inévitablement dans les groupes humains. Donc l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on en fait, comment on peut, dans une certaine mesure, les prévenir. Alors là, je pose plus de questions que de réponses, hein, mais est-ce qu'il faut éviter les sujets qui fâchent ?
Non.
Non. OK. Alors, c'est certainement utile à certains moments parce qu'on ne sort pas un truc n'importe quand. Voilà. Il faut peut-être choisir son moment et la manière. Mais en même temps, si ça sort jamais, c'est planter des graines malsaines pour plus tard. Donc, on doit apprendre à pouvoir dire un désaccord sans rabaisser ou sans dénigrer autrui. Mais c'est facile à dire et ça ne marche pas toujours. Parce que moi, je me suis trouvé, et probablement ça vous a aussi arrivé, dans une situation où une personne se sent rabaissée par le simple fait que j'exprime un désaccord, même si je n'ai pas d'intention ou de parole qui le dénigre directement, lui, il le ressent comme ça. Alors, est-ce que c'est dû à ma manière de réagir? Est-ce que c'est dû à quelque chose qui est dans l'histoire de l'autre personne qui fait que mes paroles réveillent quelque chose qui lui fait mal? C'est difficile à dire, mais voilà, il y a des choses qui sont très subtiles dans nos relations humaines. En tout cas, ce que l'expérience montre, c'est que souvent, on s'inflige des blessures sans même avoir l'intention de blesser l'autre. Donc, quand on le fait intentionnellement, c'est grave, mais quand ça se produit sans intention de blesser, ça fait mal quand même. C'est un petit peu, pour faire une analogie, si vous êtes une fois tapé le coude violemment contre une porte, les jours suivants, la moindre truc que vous touchez, ça vous fait mal. Alors je pense qu'on a souvent, parfois, je ne sais pas si c'est souvent, mais on a parfois besoin les uns des autres pour de la médiation. Moi, il m'est arrivé un certain nombre de fois d'être appelé à jouer le rôle de médiateur. Ça demande beaucoup d'écoute bienveillante. Ce n'est pas simple de garder une certaine neutralité qui est nécessaire pour jouer ce rôle. Et puis, ça ne réussit pas toujours. Mais des fois, c'est à mon tour d'avoir besoin de médiation parce que je suis dans une situation où je ne peux plus parler à l'autre personne sans avoir la protection d'une troisième personne. Ça peut être l'un ou l'autre qui a besoin de protection, voilà. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut vivre dans l'Église. Parfois on doit chercher de la médiation en dehors, mais on en a besoin. Et le pardon, qui a aussi été cité comme un gage de paix. Mais là aussi, c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine. Parfois, on se pardonne et ça réussit à rétablir des relations harmonieuses entre deux personnes. Parfois, on ne parvient pas à rétablir une relation apaisée, mais déjà, c'est déjà une étape, je pense. Il faut accepter humblement, dans notre vie réelle, certains échecs et certaines limites. Le fait, c'est que dans ces démarches-là, on peut toujours faire que la moitié du chemin. Il y a deux personnes qui sont en relation difficile. La moitié du chemin que je peux faire, il y a une autre moitié qui appartient à l'autre sur laquelle je n'ai aucune prise. C'est une moitié qui me reste inaccessible parce qu'il y a un vécu que je ne connais pas. Mais voilà, je pense que Dieu nous accompagne et Dieu peut aussi nous permettre, nous, de continuer, même si tout n'a pas pu être résolu, à condition d'avoir fait tout ce qui était possible dans notre moitié. Voilà, j'arrive maintenant... Je ne vous ai pas donné beaucoup de réponses, mais ça, il faut qu'on les cherche ensemble. Dans la société. Je reprends un texte de Paul qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous, s'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. » Je pense que dans ce texte, Paul parle aussi bien des relations à l'intérieur de l'Église qu'avec le reste de la société. Mais il souligne ici cette attitude d'humilité, de non-violence, de ne pas rendre le mal pour le mal, qui est, et ça c'est une des clés pour la paix. Et puis, il a cette manière assez pragmatique de dire pour autant que cela dépend de vous. Je pense que c'est quelque chose voilà, qu'il faut accepter. Il y a une partie qui dépend de nous, une partie qui n'en dépend pas. Alors aujourd'hui, on a une guerre, quand même en Europe, qui nous tarabuste. Mais elle nous tarabuste, mais les Ukrainiens, ça fait plus que les tarabustés. une guerre absurde et dévastatrice. Mais il y en a d'autres ailleurs, hein. On n'en parle pas beaucoup. Il y a, voilà, sur le continent africain, il y a plusieurs lieux qui sont très affectés. Alors ça nous pose des questions, et là encore, je nous pose ensemble la question, c'est celle de la non-violence. Moi, j'ai toujours été sensible aux questions de non-violence. Comme on ne m'a pas pris pour le service militaire, je n'ai pas été confronté à l'objection de conscience, mais mon frère s'est posé la question, et il l'a fait, 3 mois d'arrêt répressif, pas trop auprès de la société, parce qu'il était enfermé que la nuit, mais bon, voilà, pour ses convictions non violentes. Mais c'est vrai que face à une agression caractérisée comme celle de la Russie de Poutine aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi dire. Et on ne peut pas aller dire aux Ukrainiens « Allez vous mettre à table pour discuter avec Poutine ». On ne peut pas. C'est juste impossible. Mais j'aimerais qu'on regarde un peu plus loin, parce que il y a une notion connexe à la paix dans la Bible, qui est très très forte. C'est pour ça que j'avais mis tout à l'heure une troisième colonne, les notions connexes. Alors, il y a, je vais le mettre, il y a une espèce d'équation biblique qu'on retrouve dans plusieurs versets, mais qui, je crois, est vraiment une idée qui traverse toute la Bible. C'est cette connexion entre paix et justice. Alors, dans le psaume 11, la bonté, c'est magnifique, la bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Le droit habitera dans le désert et dans le verger s'établira la justice. Psaume 85, 11, c'est un psaume qui est aussi un psaume un peu messianique qui annonce le projet de Dieu pour l'humanité. Et puis dans Ésaïe, le fruit de la justice sera la paix. La justice produira le calme et la sécurité pour toujours. Alors bien sûr, ce serait un thème en soi. Mais j'évoque ça parce que je crois que dans ce monde, si on veut travailler à la paix, il faut aussi, peut-être même d'abord, travailler à un monde plus juste. C'est les questions de justice sociale. Je crois qu'en tant que chrétien, on doit y être engagé. La justice dans les relations internationales, la justice climatique, parce que c'est aussi, il y a aussi une injustice dans la manière dont on gère le problème qui est devant nous du climat. Je me permets de faire allusion à un argument fallacieux qui me fâche, dans un pamphlet que vous avez peut-être reçu dans vos boîtes aux lettres et qui dit que la Suisse, c'est que 0,1% des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous avez vu cet argument. Okay. 3 fois fallacieux. Premièrement, on est 1 pour 1000 de la population mondiale, en gros. Donc, si on produit 1 pour 1000 des gaz à effet de serre, on ne fait vraiment pas mieux que les autres. On est juste bon. Okay. On ne tient pas compte dans ce chiffre de tout ce qu'on importe et qui produit des émissions à gaz à effet de serre ailleurs. Troisièmement, nous, ça fait un siècle qu'on produit des gaz à effet de serre. Beaucoup d'autres pays du Sud, ils viennent de commencer. Donc si on tenait compte de tout ce qu'on a déjà mis avant, ça change complètement la donne. Je crois que c'est des questions dans le monde auxquelles on doit, en tant que chrétien, participer à tout ce qui peut être fait pour créer un monde plus juste. Et on entend des fois des gens qui critiquent l'ONU, mais justement, je pense qu'on peut être plutôt reconnaissant qu'il y ait au moins des instances, même si elles paraissent très impuissantes, avec l'humilité de reconnaître que nous aussi, on est parfois impuissants devant des conflits beaucoup plus petit que cela. Alors, comment pouvons-nous être dans l'Église. Comment pouvons-nous être une communauté qui construit la paix? Est-ce que j'ai un? Je reviendrai après. Ici, dans notre Église, nous avons une diversité assumée, même voulue. Moi, j'en suis très reconnaissant. Mais il faut que ça soit plus que des personnes ou des groupes, voilà, qui se retrouvent, qui pensent ensemble la même chose, puis qui sont sans interaction avec les autres, qui pensent autrement. Il faut qu'il y ait avec un partage. Alors, je reviens à la question, encore une question sans réponse, hein, mais de nos divergences sur certains sujets. Et c'est vrai qu'on a nos limites. Et au niveau de notre fédération d'église, il y a environ 2 ans, il y a eu des articles publiés sur la question de l'homosexualité dans le journal de nos églises qui s'appelle Vivre. Mais les réactions que ça a provoquées, des vagues, pas seulement dans le journal, mais dans des échanges après, puis pour moi, sont incroyables. Mais voilà, ça fait partie parfois de nos limites où des sujets sont tellement chauds qu'on n'arrive plus à discuter tranquillement. Mais je crois que notre témoignage il repose aussi sur la manière dont on réussit à gérer ces différences et nos conflits. Donc, encore une fois, restons humbles. Nous nous plaignons parfois de laïcisme. À Genève, on se plaint beaucoup des réactions de la laïcité exacerbée, un peu comme en France. Mais il faut reconnaître que c'est aussi le résultat de l'histoire, le résultat de guerres de religion qui ont été extrêmement violentes, qui a fait que l'État a dit maintenant ça suffit, il faut qu'on crée des conditions pour que toutes les religions aient les mêmes droits. Et c'est vrai que dans la pensée collective, c'est beaucoup inscrit une idée que les religions, en général, sont source de conflits et de guerres. Et il y a des philosophes qui transmettent cette idée. C'est pourquoi moi, je suis convaincu de l'importance de l'œcuménisme et du dialogue œcuménique, et aussi du dialogue avec les autres religions. Alors là aussi, il y a des limites, il y a des choses possibles, des choses qui ne le sont pas, mais ça fait partie de ce travail actif à la paix auquel on est appelé. Alors je termine avec simplement un appel et une promesse. Être des humbles artisans de paix, en étant des personnes et une communauté qui travaillent activement à la paix, hein, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis une promesse pour terminer, cette magnifique promesse messianique aussi dans le prophète Jérémie, « Je connais moi les plans que je prépare à votre intention, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix. Des plans de paix afin de vous donner un avenir et un espoir. »
Thank you.
la paix, un programme riche, beaucoup de réflexions. Je vous invite à la prière, que vous puissiez réagir à ce que vous avez entendu dans votre cœur ou à haute voix. Nous prions. Seigneur, nous prions parce que nous savons que tu entends. Nous ne voyons pas toujours rapidement ta réponse, mais nous savons que tu fais quelque chose. C'est pourquoi nous te prions.
Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui injurié ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
Seigneur, aide-nous à nous en remettre à celui qui juge justement. Apprends-nous à le faire.
Seigneur, de nous éclairer, de faire de nous des artisans de paix, non pas selon le monde, mais selon le modèle qui est en toi, Jésus.
Amen. Amen.
Amen. Pardon à ceux qui nous ont suivis depuis chez eux. J'ai oublié le micro pour que vous puissiez suivre aussi la prière. Être des humbles artisans de paix, être des personnes et une communauté qui travaillent activement à la paix. Nous ne pouvons pas transmettre la paix si nous ne l'avons pas. Dieu connaît notre profond besoin de paix. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui est venu rétablir la justice envers lui, mais aussi la justice envers nous et la justice dans nos relations. Par la foi, nous avons été reconnus justes devant Dieu et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. On accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Nous allons prendre la Sainte Cène.
L'institution de la scène dans Matthieu 5, verset. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit : prenez et mangez, ceci est mon corps. Je répète, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Je répète, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare. Dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le règne de mon Père. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au Mont des Oliviers.
Seigneur, nous venons à toi pour recevoir de toi cette paix si profonde qu'elle est au-delà de toutes les circonstances, parce que nous sommes totalement pardonnés et accueillis par toi. Que ta paix, ton amour et ton pardon remplissent nos vies. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Le vin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour tous. Pour notre réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Prenez, mangez, buvez, c'est le don d'amour de Dieu. Nous allons passer dans les rangs. Aujourd'hui, je vous demanderai de prendre le pain, prendre le vin et d'attendre. Parce que c'est bon de savoir qu'on est ensemble, qu'on est dans la même dynamique de vouloir recevoir le pardon, de vouloir être en paix, parce qu'on est une famille. Alors, je vous donnerai le signal pour manger. Au milieu, comme d'habitude, les gobelets de couleur pour le jus de raisin. Prenez, mangez, buvez, c'est le don d'amour de Dieu. Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles ton amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de former un corps uni qui mette en lumière le don qu'est chaque personne et que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. C'est une prière de la communauté de Grandchamp. Et ensemble, avec les chrétiens du monde entier, nous disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Relevez le faible ». Jésus nous met debout. Les annonces.
Bon, je pensais que Jean-Christophe Léfray, je pense qu'il est de service à la garderie.
Oui.
D'accord, ben voilà. C'est un service où il y a aussi besoin de monde. Moi, je ne sais pas si j'oserais, mais Jean-Christophe, il le fait, c'est bien. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y a un repas communautaire. On a oublié de le rappeler dans l'acte humérin, mais tout le monde est invité. Voilà. Alors, programme de cette semaine, l'atelier biblique mardi soir avec Michel Seret qui nous racontera l'histoire de l'EM. Alors, venez nombreux, surtout si vous êtes nouveau et que vous ne la connaissez pas encore. Voilà. Mercredi, parole et silence à la chapelle. C'est organisé par Michel Félix et ça a lieu de 18h à 19h. C'est un temps de méditation autour d'un texte biblique, tout simple. Et puis dimanche prochain, culte avec Philippe Anchaud, spéciale fête des mères. Voilà. Voilà pour le programme de la semaine.
Vous pouvez vous lever pour recevoir la bénédiction.
Que Jésus, le prince de paix, nous inspire tout au long de nos journées pour vivre en personne pacifiée par son amour, par son pardon, et puis aussi pour saisir toutes les occasions d'être des artisans de paix dans tous nos lieux de vie. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche et bonne semaine.
Souhaitons la paix mutuellement par le chant dans ces jours qui viennent. Bon dimanche à tous.
Oui, je vais vous dire, c'est vrai que j'ai dit, je vais vous dire.